Voilà, l'émission Parlons Terroir, thème, c'était, on a abordé la culture avec Christian Dubut de l'association Culture et Loisirs Sainte-Bazeille qui a présenté la foire d'automne et puis la promotion culturelle de la ville de Marmande avec à la fois Emmanuel Marchand, Jean Omer, en charge de la culture, mais surtout Louis Cravache, directeur d'affaires culturelles, Natacha Caparro, directrice de théâtre comédia, et puis Alain Lebris, conseiller municipal en charge des arts visuels. De nouveau dans les studios avec la thématique culture. Là, maintenant, je reçois Christian Dubur de l'association Culture, Arts et Loisirs de Sainte-Bazeille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'association Culture, Arts et Loisirs, c'est une association qui ne date pas aujourd'hui, je pense.
Non, elle date de 2001.
20 ans, quoi.
Voilà. Et cette association qui, en effet, comme vous l'avez nommé, se dénommait Culture, Arts et Loisirs, nous avons voulu la simplifier pour tout le monde. Elle est devenue culture et loisirs. Et ce changement s'est opéré au moment du changement de présidence aussi. Nous avons, au mois de septembre, remplacé l'ancienne présidente que vous avez rencontrée, Jeannine Boucheret, oui, par une coprésidence, Céline Demarchy, qui est adjointe à la culture au niveau du conseil municipal de Sainte-Bazeille et qui est coprésidente avec Bruno Lebadezé.
Très bien. Voilà.
Et moi, je représente cette association aujourd'hui.
Donc, 20 ans d'expérience, cette association, il y a eu quand même pas mal de choses en 20 ans.
Alors, mieux que ça, c'est que certaines autres associations organisaient des manifestations comme la manifestation phare de Sainte-Bazeille, qui est connue bien au-delà de la commune de Sainte-Bazeille, en l'occurrence, la foire à la fraise, qui est même nommée plus précisément Foire la Fraise aux fleurs et aux vins, qui se déroule tous les ans, sauf 2020 et 2021, comme vous pouvez le deviner, qui se déroule le deuxième dimanche du mois de mai. Donc voilà. Là, la date du 8 mai 2022, nous espérons fortement pouvoir l'assumer.
La fraise est quand même quelque chose qui est connu, reconnu en Lot-et-Garonne. On a la fête des fleurs et des fraises à Marmande, la fête des fraises à Sainte-Bazeille, on commence par celle de Sainte-Bazeille, Marmande, puis après c'est Clairac.
Oui.
Donc on est quand même le premier producteur français, hein, avec derrière la Dordogne. La fraise est quand même quelque chose qui est un symbole fort au niveau de notre région du Lot-et-Garonne.
Et je me vanterai en disant que la plus ancienne foire à la fraise, c'est celle de Sainte-Bazeille.
Absolument, tout à fait. Ça démarre à Sainte-Bazeille. Et alors, donc, une activité donc à travers cette foire, à foire à la fraise, mais pas que.
Alors, pas que, non, puisque notre association organise aussi, alors si on part du mois de mai, mais là, donc, on va vers le 15 août. Traditionnellement, nous fêtons la Saint-Roch. C'était une très très ancienne fête. Je n'ai pas su d'ailleurs retrouver dans les archives cette ancienneté. Je pense que c'est une fête qui doit exister depuis peut-être 70 ou 80 ans. Donc nous avons pris le relais. Elle est maintenant donc très connue dans la région bazeillaise, on va dire, par ses feux d'artifice que nous avons réussi à organiser sur ce millésime 2021, alors que 2020, nous n'avions pu rien faire. Alors, à cette occasion, il y a d'autres organisations, d'autres attractions, si on peut dire, comme une course cycliste ou des concours de belote, etc., etc.
Mais le point d'honneur, c'est quand même feu d'artifice, hein. On le voit.
C'est absolument le cas, oui.
J'étais à Duras ce jour-là et je l'ai vu depuis Duras.
Et nous avons eu le plaisir cette année de voir, en effet, revenir beaucoup de monde. On a pu constater que cela manquait. Nous avons bien fait de le relancer. Nous essaierons de l'étoffer, bien entendu, pour le millésime 2022.
Tout à fait.
Après, par contre, donc, en effet, on a comme autre date repère la fête d'automne qui devait, sur 2020, être le 20e. Mais le 20e, ce sera sur 2021. Et nous sommes là aussi relativement satisfaits de pouvoir à nouveau organiser cette fête qui va changer un petit peu de place. Nous allons la faire vers le château, puisque là, nous sommes obligés aussi de respecter les consignes sanitaires, donc respect du pass sanitaire.
Mais pour contrôler, etc.
Voilà, et il y aura quand même un vide-grenier, il y aura un village gourmand, il y aura plusieurs exposants. Sur ce plan, nous relançons quand même, et surtout donc la fameuse omelette au cèpe.
Oui, alors quand on dit fête d'automne, c'était à la fois... pour y avoir assisté plusieurs fois, on avait l'association mycologique du Lot-et-Garonne.
Exactement.
Alors, des champignons.
Il y avait une exposition de toutes sortes de champignons, aussi bien ceux qui étaient comestibles que ceux qu'il ne fallait surtout pas goûter. Mais cette association qui venait d'Agen, sur plusieurs années, nous n'avons pas pu l'organiser. Soit parce que il faisait trop beau pour cette fête d'automne, nous n'avions pas de champignons.
Comme en ce moment, c'est un peu compliqué.
Mais ça ne tombait pas forcément au bon moment. Et puis, cette association venant d'Agen, les responsables nous ont dit « Nous n'arrivons pas à renouveler les adhérents. Nous avons tendance à vieillir un peu trop vite. » Et donc, ils nous avaient signifié le fait qu'il ne pourrait plus nous accompagner. Donc on essaie de trouver d'autres thèmes.
Il y a la truffe.
Voilà, mais bon, c'est le coup d'arrêt de 2020, je vais vous dire.
Ça fait beaucoup de mal, il y a beaucoup d'associations qui ont disparu, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus dans les associations. On était devenu un monde de plus en plus, je dirais, égoïste, et on est encore plus égoïste à l'heure actuelle.
C'est pas exclu.
Moi, j'arrive de l'AFDI, c'est l'Assemblée générale de la culture française de plan international, et c'est vrai que c'est déjà aider autour de chez soi, c'est bien, mais aller aider en Afrique ou ailleurs, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est certain que c'est pas évident à faire renaître ou redévelopper, recréer une dynamique par rapport à ce qu'on a vécu, parce que finalement, on a quand même vécu une période qui était quand même relativement dure, surtout le premier confinement. Fallait pas...
Très, très dur, très décourageant même pour certaines associations et pour se faire accompagner de bénévoles. Il y a eu comme un relâchement, et il faut tout relancer là maintenant.
Tout à fait. Alors cette année, donc fête d'automne, cette de Bazeille, donc ça commence samedi 9 octobre, 20e édition.
Alors ça commence samedi 9 octobre. Traditionnellement, justement pour cette fête d'automne, nous faisions le samedi soir une soirée moules frites dansante. Voilà. Là, on a préféré remplacer cette soirée moules frites qui, sur le plan sanitaire, pouvait être compliqué. Un petit peu compliquée. Par un spectacle de l'humoriste régional Sébastien Lafargue, qui commence à être très connu quand même sur le secteur.
Viticulteur aussi, viticulteur voilà. Côte du Normandais, donc son père était président de la cave.
Exactement, là c'est un domaine qu'il connaît bien, mais comme il a du temps de libre, n'est-ce pas, j'exagère un peu, parce que les viticulteurs ont quand même beaucoup de boulot tout au long de l'année.
Oui, surtout en ce moment. Là,
mais on sentait que sa distraction préférée, c'est-à-dire donc faire rire les gens, ça lui manquait énormément. J'avais pu discuter avec lui, ça c'était pour lui un gros, gros manque. Et nous l'avions programmé le 27 mars 2020, comme nous n'avions pas pu le faire, comme vous pouvez bien entendu le deviner.
C'est ça, on a décommandé tout ce qui a été fait sur 2 ans, presque, ça commence maintenant.
Voilà, nous l'avions reprogrammé en novembre 2020, vous pouvez deviner que ça n'a pas pu fonctionner. Et Céline ayant eu une approche avec Sébastien Lafargue, il était vraiment, vraiment satisfait de pouvoir dire de venir chez nous pour pouvoir présenter son troisième spectacle, son troisième one-man show. Après, Je, ça c'était son premier titre, et le deuxième, Nommé, Là maintenant, c'est Hébécois. Et je peux vous dire que ceux qui auront, et déjà il y a de nombreuses personnes qui ont réservé pour ce spectacle, tous ceux qui n'ont pas encore, disons, passé ce petit coup de fil pour réserver, je les encourage parce que c'est
Alors pour
une
réserver,
garantie de très bonne soirée.
alors c'est un show humoristique tout public et pour réserver, il faut appeler la mairie au 05 53 94 40 28. Je répète, 05 53 94 40 28. Des spectacles, vous en avez déjà fait, notamment du Pagnol.
Alors voilà, nous avons sollicité il y a déjà de nombreuses années la troupe de Jean-Claude Baudraco, qui est un gars du Sud bien marqué.
C'est Gilles Lagahuzère qui l'a connu, c'est pour ça
Voilà,
quand même.
exactement. Et qui, c'est comme vous dites, c'est du Pagnol, mais donc c'est presque Rému ressuscité.
Ah oui.
Il était très lié avec Galabru.
Oui.
C'était un ami. D'ailleurs, je me rappelle l'avoir vu dans
Ah
l'émission
ben,
de Drucker dimanche
oui.
après-midi
Il est
ensemble.
venu à Marmande de Galabru 6 mois avant de décéder,
Exactement.
ouais, pour
Et
une pièce de théâtre,
voilà. Et
qui.
donc Jean-Claude Baudraco vraiment excelle dans toutes ces pièces de Pagnol. Et nous avions donc programmé Naïs avec lui en mars 2020, mais comme mars 2021 repoussé aussi, donc nous espérons fortement l'accueillir en mars 2022.
Il est passé déjà La fille du puzzatier, vous avez eu la
La
femme
femme
du
du boulanger,
boulanger, enfin
voilà.
bon.
Et puis donc la trilogie, bien entendu, de Pagnol. Donc en effet, c'est une date attendue, je pense, par de nombreux spectateurs.
Alors on poursuit avec la fête d'automne donc à Sainte-Bazeille. C'était samedi 9 octobre,
Alors,
donc un spectacle.
c'est à venir, c'est ce prochain week-end, donc.
Oui, voilà, on revient maintenant à nos moutons. Samedi 9 octobre, donc 20e édition des fêtes d'automne à Sainte-Bazeille. Donc à 20h30, un spectacle, un show humoristique tout public, donc avec Sébastien Lafargue, Hébécois, donc à 20h30 à la salle des fêtes de Sainte-Bazeille. Et puis le lendemain, ça commence déjà à 7h. Avec un
Oui,
vide-grenier,
les
c'est ça?
vide-greniers, les gens sont courageux, donc ils s'installent. Et encore, les journées sont moins longues qu'en plein été, mais en effet, les gens s'installent de bonne heure. Et il y a d'ailleurs assez souvent des gens, mais la logique veut que le public n'arrive qu'à partir de 8 heures.
Et à 8h30, vous avez une randonnée pédestre. Alors le thème, c'est, comme on est au mois d'octobre,
Voilà,
octobre, c'est l'année, c'est le mois en rose lié à la cancer du sein, donc sensibilité au cancer du sein. Donc là, vous avez une randonnée pédestre. Je pense qu'il faut habiter, faut être habillé en rose, c'est ça?
C'est pas une obligation,
Je sais que Meillant, ils en font une où il faut être habillé en rose.
Alors,
Donc,
si les participants trouvent en effet un objet ou quelque chose qui le rappelle, ben c'est pourquoi pas.
alors, à 11h30, il y a un apéritif offert par la municipalité. Et puis, c'est justement cette fameuse omelette au cèpe, parce que bon, les cèpes commencent à sortir. Donc, c'est le moment de manger omelette au cèpe.
Voilà, et nous avons le concours de notre ami Michel Charlot qui, disons, figure dans l'association La Guppie Sport Loisirs, donc la commune voisine.
Donc, je fais partie.
Voilà, donc qui a de nombreuses animations d'ailleurs tout au long de l'année. Alors il était président jusqu'à la dernière assemblée, il a passé le relais, mais c'est toujours la cheville ouvrière
Tout
de
à
cette
fait.
association. Et il vient donner un coup de main régulièrement à Sainte-Bazeille. Et nous en profitons d'ailleurs pour le remercier.
Tout à fait. Alors, il passe d'ailleurs, je crois qu'il est chargé de faire une recette pour l'émission Occitane d'Alain Pierre à Dichat, une recette en occitan, toutes les semaines, je crois. Parce que moi, je n'ai pas pu être là pour faire une émission sur. Festipomme, puisqu'il y avait un festival de pommes, enfin, une fête de pommes à la Guppie.
Exactement.
Voilà, et donc c'est deux de mes collègues qui ont fait la présentation avec lui, à la fois sur CFM et puis sur Radio Notre-Dame-des-Mers. Alors à midi, il y a également un village gourmand sous chapiteau. Et puis l'après-midi, vous avez une animation de danse avec l'association Basidance.
Voilà. Cette association qui est toute récente, on va dire, puisqu'elle a été créée en septembre 2019, mais qui est partie sur les chapeaux de roue, puisque dans les 2 mois qui ont suivi, il y avait déjà plus de 100 ou 120 adhérents. A par contre connu également un coup d'arrêt en 2020, mais là cela vient de reprendre là tout ce début de septembre, et ce sont les lundis soirs, mardi soir et mercredi soir, suivant les différentes danses, à partir grosso modo de 19h30.
Très bien.
Notre coprésident, justement, Bruno Lebadezé, de cette association culture et loisirs, fait aussi partie de l'association Basidance.
D'accord. Alors donc, toute la journée, il y a de l'artisanat, bien sûr, différents exposants, fêtes foraines, et puis dégustation, puisqu'on parlait de la fameuse... omelette au cèpe, il y a aussi, puisque c'est la période aussi, dégustation de moût de raisin en direct du pressoir manuel.
Ouais, c'est vrai que cette fête d'automne, on pourrait aussi nommer fête d'automne et des vendanges, pourquoi pas. En effet, il y a un pressoir qui nous est prêté gentiment par notre ami Ernest Purvesan, qui, j'en profite pour lui envoyer un petit bonjour, parce qu'il a un gros pépin de santé en ce moment, donc j'espère qu'il va se rétablir. Et donc là, nous faisons déguster ce moût de raisin qui est tout au long de la journée.
Le bourru, voilà.
Voilà, le bourru.
Fête d'automne, donc 9 et 10 octobre 2021, port du masque obligatoire, pass sanitaire, pour la 20e édition.
Alors, surtout pass sanitaire, parce que les affiches ont été faites avec... mais dès le moment où le pass sanitaire sera proposé à l'entrée, le masque ne sera pas obligatoire.
On enlève le masque après. On arrive avec le masque et après on sort démasqué. Très bien. Eh bien, merci Christian Debion de nous avoir finalement ouvert les portes des fêtes d'automne de Sainte-Bazeille qui auront lieu dans le 9 et 10 octobre avec une association culturelle qui a déjà 20 ans, puisque c'est 20 ans que vous avez démarré cette association culturelle pour animer le village, enfin la petite ville, parce que plus de 2600 habitants.
Nous sommes proches des 3500.
Oui, c'est aussi grand que l'Aréole. L'Aréole fait ville alors que Sainte-Bazeille ne fait pas.
Eh ben, c'est peut-être la proximité de Marmande qui fait l'effet, mais cette notion de village nous va bien.
Ouais, très bien. Merci.
Merci.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines qui sèchent leur dentelle au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge. Concurrence déloyale de ton chauffage central, une pluie est dans
palissade, une maison de retraite construite devant ma fenêtre, sur un fil par centaines sèche d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
Alors maintenant, nous allons entendre, cette fois, c'est la programmation culturelle de la ville de Marmande avec d'abord Emmanuel Marchand, qui est adjoint au maire de Marmande, Louis Grabache, directeur des affaires culturelles, Natacha Capro, qui est directrice du théâtre Comédia, et Pierre-Alain Lebri, qui est conseiller municipal en charge des arts visuels. Alors je suis au Comédia avec Emmanuel Marchand, adjoint au maire, chargé de la culture de la ville de Marmande, mais également Natacha Caprero, qui est directrice du Comédia, et Louis Grabache, qui est directeur des affaires culturelles de la ville de Marmande. Alors je me tourne d'abord vers Emmanuel. Pour aussi un petit peu, l'activité culturelle sur Marmande, l'objectif c'est quand même relativement diversifié, je crois.
Oui, nous tenons à proposer aux Marmandaises et aux Marmandais une programmation éclectique, de qualité, exigeante, mais accessible à tous. Donc voilà, c'est le fil rouge de cette programmation, qui est un peu particulière, puisque cette année, une très grosse majorité, 80-90% des spectacles, sont des reprogrammations de spectacles annulés les deux saisons précédentes.
Et oui, le Covid étant passé par là, donc on a eu beaucoup de spectacles qui ont été annulés. Alors, je vais me tourner vers Louis Grabache, peut-être, qui va nous brosser peut-être les grandes lignes. Et puis après, Natacha Caprero rentrera dans le vif du sujet.
Je crois qu'on arrive sur une saison culturelle des spectacles au Théâtre Comédia qui est à maturité, c'est-à-dire je pense qu'on est aujourd'hui sur un équilibre entre création artistique, mais également médiation, travail auprès des habitants, et aussi décentralisation qui prend toute son ampleur, en tout cas dans l'équilibre entre ces différentes choses. Et c'est vrai que Natacha en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. On a, et grâce notamment aux deux étés passés, pu tester des formes auprès des habitants qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, je crois que c'est aussi peut-être l'amorce d'une nouvelle manière de travailler l'adresse des spectacles à nos spectateurs, un peu différente, et peut-être aussi un autre rapport à la société, entre le théâtre et la société. Et c'est assez vrai d'ailleurs, je crois, avec d'autres services culturels de la ville, parce que ce temps de crise sanitaire a quand même pas mal modifié la vision qu'on pouvait avoir de nos propres métiers et la manière de les exercer dans ces conditions difficiles et qui, de forme de contraintes, sont peut-être aussi à certains moments devenues des sources d'inspiration et de regards différents.
Finalement, de crise naît toujours le progrès. Hein. Finalement, on prend du recul par rapport à ce qu'on fait et finalement, on ajuste et on progresse.
On peut dire que de la contrainte naît la création, et donc du coup, voilà, on essaie aussi. Il y a toujours cette notion de plaisir et cette notion de transmission qui est là, et quand on est un peu coincé par telle ou telle forme ou tel ou tel format, finalement, on essaie de contourner, de trouver d'autres solutions. On l'a connu à d'autres moments, dans les années 90, début 2000 aussi, pour d'autres raisons, l'arrivée des nouvelles technologies au sens de que les gens se renfermaient sur le jeu vidéo, sur la télé, etc. Donc il fallait trouver d'autres formes. Ben là, ça a été autre chose. C'était la crise sanitaire qui faisait qu'on n'avait plus les moyens d'expression qu'on connaissait jusqu'alors. Et donc, voilà, on a été obligé d'inventer. Je crois que c'est vraiment un démarrage. C'est vraiment un démarrage pour faire autrement. Alors évidemment, on conserve les formes qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, mais pas que. Voilà.
De nouveaux défis. Alors, Natacha Caproro qui va nous parler un petit peu de la programmation. Alors, je crois qu'il y a déjà eu un premier spectacle qui a eu lieu dernièrement.
Oui, l'ouverture de saison, vendredi dernier, le 24 septembre. Donc, c'est une ouverture qu'on dédie au public dans sa large perception, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui est offert par la ville. Et l'idée, c'est qu'on souhaite ouvrir un public très large et ne mettre aucune barrière parce que le théâtre souffre encore de certains clichés où il semble difficile d'accès, que ce soit sur le plan financier ou ne serait-ce que l'accessibilité sur ce que ça peut raconter et sur les formes qu'on peut retrouver sur une scène. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir largement, de faire venir les personnes. Donc on a ouvert comme ça cette saison avec une pièce de théâtre, contrairement aux années précédentes où on était beaucoup sur de la chanson ou un mix de théâtre et de musique. Là, on a vraiment pris le parti de choisir un spectacle théâtral dans sa grande tradition scénique, avec un texte, un vrai texte contemporain d'un auteur de théâtre et une compagnie de théâtre qu'on connaît très bien, qui est la compagnie Prométhée, avec Luc Cogné. Donc l'assemblage d'un très beau texte et d'une très belle mise en scène pour une ouverture de saison en deux temps, en séance scolaire l'après-midi et en séance tout public le soir. Voilà, on a donné là avec ce beau spectacle qui a fait l'unanimité, on peut le dire maintenant a posteriori, auprès des publics qui ont été très variés ce soir-là, puisqu'on avait vraiment de jeunes, enfin des enfants, des adolescents, mais aussi des familles, des personnes, voilà, des professeurs, beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille des actions culturelles. Voilà, donc c'était de très bon augure, cette soirée-là était de très bon augure. On n'attend plus que de pouvoir lancer tout le reste dans ces mêmes conditions. Voilà, malgré le pass sanitaire et les contraintes évidemment qu'on va retrouver chaque fois en soirée.
Bon, de toute façon, le pass sanitaire devient quelque chose qui est obligatoire, donc on s'habitue à ça partout où on va. On va les boire un coup, dans un restaurant, obligatoirement il y a un pass sanitaire, donc on s'habitue à la chose. Au fil des ans, vous êtes tissé des partenaires relativement importants, et je crois que c'est ça qui finalement vous permet d'approcher plus de public à ce niveau-là.
Oui, ça fait quelques années qu'on fait ce qu'on appelle de la médiation ou de l'action culturelle, effectivement donc en direction de plusieurs publics, qu'ils soient scolaires comme on en a parlé, mais aussi sur des institutions plus socio-éducatives, socio-culturelles ou même médico-sociales. On peut dire aussi que notre équipe du théâtre s'est étoffée avec l'arrivée d'une nouvelle collègue qui est totalement chargée de la médiation et de la communication et qui, avec cette arrivée-là, effectivement nous fait progresser davantage, nous fait nous projeter encore plus loin en direction des publics. Et petit à petit, effectivement, les partenariats s'étoffent et on le ressent dans nos liens privilégiés avec les différents publics, mais aussi sur des fréquentations de salles le soir des spectacles ou les jours de spectacle.
Donc, on monte crescendo. Alors, on va attaquer la programmation avec, je crois que c'est le mercredi 13 octobre, Les pieds dans l'eau, la tête au soleil. C'est pas mal, ça.
Ouais, c'est pas mal. On y est en plein. Là, on est en pleine préparation de cet accueil de spectacle. C'est un spectacle qui est proposé par François Lemonnier, qui est un auteur, compositeur, interprète de chansons françaises, qui fait des disques, et qui donc il va faire 7 représentations. Donc on l'accueille pour 7 représentations au Petit Théâtre. On a 6 représentations en séance scolaire pour les maternelles, les tout-petits, et une représentation tout public le 13 octobre, comme vous l'avez dit, en sachant que ce spectacle s'adresse à des tout-petits à partir des 6 mois. Voilà. Donc là, on va être dans une salle de spectacle qui va ressembler à une crèche, et c'est formidable, en fait, de voir les réactions de ces petits êtres. Voilà, avec François Lemonnier qui est très riche en propositions. Il va arriver avec une quantité d'instruments qu'il va leur montrer et avec qui il va échanger. Et malgré le fait que ce soit un spectacle pour des enfants très très jeunes, dès 6 mois, ça va durer au moins 45 minutes parce qu'après il y a un temps d'échange. Donc voilà, donc on travaille avec les crèches en ce moment et puis les écoles de Marmande, les écoles publiques de Marmande pour cette représentation.
Donc mercredi 13 octobre, Les Pieds dans l'eau, La tête au soleil avec François Lemonnier, donc un spectacle pour les tout-petits. On poursuit avec, cette fois, c'est le 22 octobre, le vendredi 22 octobre, on est sur Urbans, à 10 ans. Urbans.
Urban, c'est le festival des cultures urbaines qui est organisé donc, depuis 10 ans par le Bureau d'information jeunesse, qui sont nos collègues à la jeunesse de la ville de Marmande. Et donc, cette année, pour fêter ces 10 ans, on a réfléchi et on s'est dit que c'était pas mal de pouvoir offrir la scène ouverte à de jeunes danseurs du territoire, donc essentiellement marmandais, mais pas que autour. Parce que ce sont des jeunes qui, en 10 ans, on a vu venir voir les représentations des spectacles de danse qu'on avait l'habitude de programmer, de spectacles de danse professionnels. Et il se trouve que, avec le terroir que nous avons et surtout les écoles de danse comme Coréa ou Manelogi à Sainte-Bazeille, Coréa Marmande, il y a vraiment un vivier de jeunes danseurs qui sont sur une voie de professionnalisation de la danse. Et donc, on leur donne une sorte de carte blanche. On les accueille vraiment comme une compagnie professionnelle. Donc, ils sont plusieurs. Ils viennent avec des solos qu'ils ont créés eux-mêmes ou des duos. Et donc, la scène sera à eux avec tout l'accueil digne de ce nom, avec vraiment une prestation en son et lumière, voilà, comme un vrai spectacle de danse. Donc, ils sont en train de finir cette création et on les accueillera pour fêter ces 10 ans d'Urbans. Cette soirée ouvrira le festival.
Donc, culture urbaine, hip-hop, etc.
Hip-hop, crump, mais aussi de la danse contemporaine qui vient aussi nourrir tous ces danseurs hip-hop et vice-versa d'ailleurs.
Voilà. Très bien. Alors le vendredi 19 novembre, on poursuit avec, là cette fois, les orchestres symphonistes d'Aquitaine qui viennent présenter Arpa Latina.
Oui, alors chaque saison, nous programmons 3 concerts des symphonistes d'Aquitaine. Donc ça, c'est le premier rendez-vous avec une artiste qui viendra jouer de la harpe. Alors évidemment, je ne suis pas très bien placée pour rentrer dans l'artistique de...
Oui, Philippe n'est pas là, donc on ne peut pas me parler.
Voilà, en général, Philippe nous accompagne quand on veut parler des symphonistes parce qu'il en parle déjà tellement bien. Il rentre vraiment dans des détails très subtils et notamment sur le plan artistique. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que comme à chaque concert, il y aura une séance dédiée aux scolaires qui est la répétition générale des artistes, mais qui finalement devient également une représentation, on va dire, scolaire, puisque là, on a aux alentours entre 300 et 400 élèves de maternelle à lycée qui viennent assister à cette générale qui a lieu généralement la veille. Donc ça sera le cas pour cette séance-là.
C'est ça, c'est la sensibilisation des jeunes publics par rapport déjà au conservatoire derrière. À travers donc cet orchestre des symphonistes d'Aquitaine qui aura lieu le vendredi 19 novembre. Alors on poursuit cette fois, on arrive au mois de décembre, le 4 décembre. Là, on est à l'hommage à Václav Nijinsky, une compagnie théâtrale.
Donc oui, là c'est donc un report de la saison dernière qui est une création chorégraphique de Faisal Zeghoudi. Faisal Zeghoudi qui depuis 3 ans, 4 ans maintenant, puisqu'on a reporté beaucoup de choses, était un artiste en résidence, on en a parlé longuement. Donc là, il vient avec un double spectacle, puisqu'il y a le prélude à l'après-midi d'un faune qui sera en première partie du Sacre du Printemps ou le Cri de l'Indépendance, le titre entier est celui-ci. Voilà, alors pour ceux qui connaissent Faisal Zeghoudi en danse contemporaine et en création, il ne nous laisse jamais très insensibles à ce qu'il fait. Donc là, c'est une reprise, hein, une reprise de spectacle, notamment pour le Sacre du Printemps, qu'il avait créé pour à Bogota pour l'indépendance, pour fêter l'indépendance de la Colombie. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2004, donc ce sont des reprises de rôle. Il est venu d'ailleurs pendant notre fermeture de la saison dernière, il est venu avec son équipe retravailler les rôles puisque certains danseurs sont partis. Donc voilà, une belle soirée danse.
Alors toujours au mois de décembre, on arrive au mardi, mardi 7 décembre, lettre à plus tard, la compagnie Thomas Visonneau.
Oui, Thomas Visonneau sera, et d'ailleurs, puisqu'on est au présent, notre nouvel artiste en résidence de territoire.
Ah, nouveau artiste en résidence.
Voilà, donc ça veut dire que si on se rencontre souvent, on aura l'occasion de dire son nom souvent également. On va en reparler puisqu'on a plein d'actions à faire avec lui partout, j'ai envie de dire, dans le théâtre, mais vraiment aussi hors théâtre. D'ailleurs, c'est peut-être plus hors théâtre que dans le théâtre. Et d'ailleurs, c'est la première action que nous allons faire avec lui. Lettre à plus tard, nous allons aller voir des jeunes étudiants, des étudiants jeunes en l'occurrence. Voilà, pléonasme. De la cité de la formation professionnelle, mais aussi des internes du lycée Val-de-Garonne et d'autres. Voilà. Et ce principe-là, c'est donc Thomas qui a créé cette action-là. L'idée, c'est de récupérer une centaine de lettres écrites par des jeunes gens de 14 à 20 ans. Une lettre, quelle que soit la lettre, une lettre qu'ils ont toujours voulu écrire, une lettre adressée à quelqu'un d'imaginaire ou pas, sa mère, son père, le président de la République, à personne, peu importe également la façon d'écrire, ça peut être en style SMS, ça peut être, pas de forme, travailler avec un professeur de lettres qui voudrait y mettre, une syntaxe particulière. Là, on est vraiment sur un premier jet, sans ponctuation, peu importe. Thomas ensuite récupère ces lettres-là, il en garde une centaine, et de ces centaines de lettres-là, il en fait un spectacle, lui-même, seul en scène. Et donc, on est aussi en pleine rencontre avec les structures dont je vous ai parlé, puisque le spectacle est d'ores et déjà arrêté. Ça sera le 7 décembre au Théâtre Comédia. Donc on a un mois pour écrire les lettres, un mois pour que Thomas réfléchisse à cette mise en scène. Et après, le spectacle sera là, créé avec nos techniciens du théâtre en son et lumière.
Dans les artistes en résidence, on a parlé d'artistes en résidence, il y a des nouveautés là, non ?
On a aussi effectivement côté direction des affaires culturelles Eddy Ladoire qui arrive pour 2 ans. Alors il était déjà un peu présent à travers les parcours sonores et puis le travail autour des portraits vidéo des anciens de CESA. Là par contre il est vraiment sur un temps de médiation. Il s'est associé d'ailleurs avec Barthélémy Bellodi, qui est un autre créateur sonore. Et tous les deux vont mener avec plusieurs partenaires, et donc notamment les classes 5, 6e et 5e CHAM du conservatoire, un travail autour des musiques électroniques et de l'ouverture des gamins à ces musiques-là, avec de la captation sonore, du mixage. Ça va être intéressant. C'est des travaux qu'on va retrouver plus tard dans la saison. Et donc sur l'année, donc ça démarre, là ils ont pris rendez-vous, ça démarre, mais il y a aussi ce travail qui se fait avec Famille et Compagnie, donc autour de porteurs marmandais des droits de l'enfant, c'est-à-dire l'association a souhaité travailler avec Eddy pour mettre en valeur sur leur expo qui est à la Filleule aujourd'hui, des portraits audio de gens qui à Marmande défendent ces droits de l'enfant. On a également un travail qui se fait autour de la gravette et de la rénovation des appartements à la gravette dans le cadre de la politique de la ville. Et là, ce sont des habitants qui vont témoigner des bouleversements qui les touchent à travers cette réhabilitation. Et j'en oublie, mais on a 5 projets en cours, dont un également avec Christelle Dupuis, qui est la documentaliste du collège de la cité scolaire, et qui, d'un journal interne au collège, a souhaité passer au podcast. Et donc là, de la même manière, Eddy ou Barthélémy vont intervenir avec elle auprès des enfants sur un temps du midi pour les faire travailler le format podcast et donc l'information, le journal, mais audio. Voilà.
Donc ça, c'est un artiste en résidence, mais on vient d'en parler un deuxième à propos des lettres. Il y avait un général 3, non ? Il ne reste qu'à 2.
Alors oui, effectivement, sur la dernière version, on avait 3 artistes en résidence sur 3 ans. Du coup, on a un peu revu la copie parce qu'on trouvait que c'était très lourd. Du coup, Natacha pourra vous parler aussi d'un deuxième artiste en résidence au théâtre, autour des arts de la marionnette. Et donc, moi, Eddy Ladoire, sur la partie, on va dire, numérique, sera le seul, mais c'est déjà pas mal. Peut-être faire une petite incise par rapport à Émergence qui redémarre aussi Et alors, je vais pas m'étendre trop, mais
on
c'est,
en parlera plus
tard. Ah, ou plus tard, oui, voilà.
On est un peu déjà touché de monde.
Ben, en tout cas, l'idée, c'est de communiquer assez vite d'ici la fin de l'année avec l'ensemble des partenaires auprès des jeunes, donc de on va dire, l'aire des 50 km autour de Marmande, hein, donc c'est une centaine de kilomètres de diamètre, de manière à aller chercher les 15-35 ans qui créent, soit en spectacle vivant ou en nouvelle technologie, ou les deux mixés, et d'avoir cette première étape avant la fin de l'année de communication pour faire savoir que cette possibilité de montrer nos travaux est possible. Voilà, donc ça va être... informations autour de la plateforme d'inscription pour Émergence. Voilà, je m'arrête là.
Donc Émergence qui aura lieu au mois de mai, non, c'est ça?
Au mois de juin.
Au mois de juin. Alors, comme je l'indique, c'est pour faire émerger des jeunes talents, des jeunes pousses du territoire.
Quelle idée d'aller à Berlin, ta mère et moi tenant ta main, comme une béquille bancale famille, on fait comme si rien n'est détruit, toi qui ne connais pas l'histoire, on te raconte cette nuit noire. Un mur hideux, c'est si facile, coupé en deux, comme ça une ville. Mais nous, c'est pas Berlin, il n'y a rien qui nous sépare, ou que tu t'endormes le soir. Nous, c'est pas Berlin. Ne vois pas un mur qui se dresse dans tes sommeils à deux adresses, des parpaings empilés si vite, puis cette rumeur qui s'ébruite avec le jour qui vient à peine, les gens accourent quand ils comprennent. On te raconte les années sombres, le long du mur glissent des ombres, pour une absente de l'autre côté, tous ceux qui tentent de le sauter. Mais nous, c'est pas Berlin, il n'y a rien qui nous sépare, que tu t'endormes le soir. Nous, c'est pas Berlin. Ne vois pas un mur qui se dresse dans tes sommeils à deux adresses. Toi qui es curieuse en revanche, on te raconte cette nuit blanche, les coups de masse, la foule en liesse, et ceux qui passent enfin à l'ouest, imagine vrillant les tympans, comme ça klaxonne dans les trabans, le mur qui craque, la fougue rebelle, on joue du bas au violoncelle. Pour nous, c'est ça Berlin, il n'y a rien qui nous sépare, ou que tu t'endormes le soir. Pour nous, c'est ça Berlin, ne vois pas un mur qui se dresse dans tes sommeils à deux adresses. Quelle idée d'aller à Berlin, longer le mur qu'on a repeint, une jolie fresque, c'est facile presque, unir un lieu coupé en deux.
Alors on continue avec Natacha, parce qu'elle a pu souffler un peu. Alors on était sur Lettres à plus tard, c'était le 7 décembre, et on continue le vendredi 10 décembre, Fais-moi mal, Boris.
Oui, nouveau report de la saison dernière avec Carmen Maria Vega, chanteuse assez exceptionnelle parce qu'elle a aussi, elle est comédienne, et pour l'avoir accueillie il y a je crois 3 saisons, avec le spectacle Garçon, elle était entourée de 2 autres chanteuses, qui était un très beau spectacle de chansons, mais elle sortait vraiment du lot, enfin, en ce qui concerne sa prestation sur scène, pour en avoir discuté aussi avec le public après. Elle a créé ce spectacle, Fais-moi mal, Boris, qui est un hommage à Boris Vian, avec aussi l'accompagnement de la famille de Boris Vian, hein, qui gère le patrimoine de l'artiste et qui a donné son aval pour que Carmen Maria Vega puisse porter cet hommage-là. Et là, on est sur un spectacle qui est plutôt lecture, cabaret, danse, chanson, avec des petits clins d'œil, notamment sur les chansons, on va dire, érotico-comiques que Boris Vian a pu écrire. Voilà, donc hâte de découvrir ce spectacle que je n'ai pas vu, parce qu'il a été créé à Paris et il a très peu joué finalement avec cet arrêt-là. Donc j'ai entendu quelques chansons, mais pour avoir vu voilà, cette artiste sur scène, je pense que ça va être vraiment très beau et de très grande qualité. Il y a aussi du pole dance, elle arrive aussi avec une barre de pole dance, puisqu'elle a beaucoup d'humour. C'est une chanteuse qui a beaucoup d'humour. Donc je pense que oui, on va se régaler, on va bien rigoler également avec les textes notamment de Boris Vian.
Donc, si on résume un petit peu, le premier trimestre, c'est soutien à la création, action culturelle, éducation artistique culturelle, représentation scolaire. C'est les 4 piliers de la thématique culturelle du premier trimestre.
Ce sont des piliers, finalement, qui sont même des piliers de saison d'un théâtre, tel qu'on l'entend et tel qu'on l'a projeté sur ce projet culturel et artistique de la structure et du projet culturel de la ville. C'est vraiment... le théâtre n'est pas seulement un lieu de diffusion et de programmation, mais il est aussi un lieu qui soutient les artistes. Donc il y a plusieurs façons de soutenir les artistes, mais oui, soit en faisant de la coproduction, soit en les accueillant lors de leur création. Donc ce trimestre n'a pas été sans reste, puisqu'on a accueilli avant même l'ouverture de saison, une semaine avant l'ouverture de saison, la Compagnie des Figures, qui est une compagnie de Bordeaux et qui sont en pleine création d'un spectacle qu'on accueillera en saison prochaine. Donc ils sont venus travailler ce nouveau spectacle. On a accueilli aussi Luc Cognier pour son spectacle d'ouverture, qui faisait une reprise de rôle puisqu'il n'avait pas pu jouer également. Donc tous ces soutiens artistiques, oui, font partie des piliers du projet du théâtre. Et évidemment, tous les spectacles programmés en direction des élèves. J'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure, quand François, on parlait de François Lemonnier pour les maternelles. Il faut savoir qu'avant, il va venir jouer donc le 13 octobre, le 15 et le 16 octobre également, 14-15. Et il va être 2 jours avant ses représentations. Il sera dans une école, d'ailleurs c'est en face du théâtre ici, il sera à l'école maternelle du centre avec 3 classes et il va faire des ateliers de chansons, création de chansons avec des maternelles qu'ils pourront restituer eux entre eux dans l'école. Donc voilà, oui, pilier très important de notre projet du théâtre.
On voit bien que le théâtre Comédia, il rayonne sur le territoire.
Écoutez, oui, on va dire oui, mais si vous le dites, voilà.
C'est l'objectif.
On l'espère, oui, oui.
Alors, il n'y a pas que le théâtre, il y a aussi plusieurs je dirais, cordes dans les activités culturelles. Il y a un musée, le musée Marzel. Le musée Marzel, il y a quoi, juste en ce moment ?
Bien sûr, donc qui est une exposition photo qui a été proposée par le FRAC. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une expo qui a été au départ initiée par le musée d'Agen. Voilà. Et le musée d'Agen n'a pas pu aller au bout, et ce qui fait que c'est une création qui a 2 ans maintenant et qui s'est mise en place donc avec notamment la chargée de programmation du FRAC, qui était présente l'autre jour au moment d'inauguration. Et c'est une très belle histoire, puisqu'il s'agit donc de portraits de femmes par des femmes, mais pas que. Nous avons aussi quelques portraits qui ont été réalisés par des hommes. Et comme à son habitude, Pascal Morel a mis en place autour une série de médiations, de sensibilisation, donc d'accueil de classe autour de cette programmation. On en parlait tout de suite, hein, la médiation est quelque chose d'important, c'est vrai pour tous les services. Et du coup, on va retrouver en fait, cette forme de fonctionnement avec le musée Marzel, mais également avec les archives et le patrimoine, avec aussi le conservatoire qui ouvre ses portes et avec, disons, un projet qui se rénove avec le temps, qui est en train de se construire, puisque le nouveau directeur du conservatoire est en train de plancher sur un nouveau projet d'équipement, puisque l'ancien arrive à terme. Et puis la médiathèque, évidemment, qui aussi repart sur un nouveau contrat territoire lecture à partir de 2021, et donc une série de médiations et d'actions de sensibilisation des publics importantes. Voilà, donc je crois que aussi, pour répondre à la question... Vous parliez tout à l'heure de piliers ou de fil rouge. Je crois que là, on a à l'échelle même de la politique culturelle de la ville quelque chose qu'on va retrouver de manière importante dans chacun des services, dans chacune des structures.
Oui. Alors peut-être juste un détail sur un ajout sur l'exposition Portrait de femme. Au rez-de-chaussée du musée, il y a donc cette exposition de photos essentiellement. Quelques toiles, semble-t-il, mais essentiellement des photos. Et ce que j'ai trouvé, moi, très intéressant, c'est qu'au premier étage, au cœur de l'exposition permanente à Belboyer, des photos ont été mises en regard des tableaux que les Marmandais connaissent peut-être ou pas encore. Donc c'est une occasion de les connaître ou de les redécouvrir avec ce parallèle entre la peinture classique du 19e, très académique, et des photographies qui sont très différentes et à la fois qui font le lien entre ces deux arts, la peinture et la photographie, et sur un modèle féminin. La représentation du corps féminin, ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, ce qu'on met en lumière, ce qui reste dans l'ombre. Donc voilà, je conseille vraiment jusqu'au 13 novembre d'aller voir l'exposition Portrait de femme. Et à partir du 18, oui, on a une exposition alors, qui est aussi en report. C'est l'exposition du dessinateur, illustrateur Alfred, donc, qui est dessinateur, illustrateur de bande dessinée. J'ai eu l'occasion de rencontrer avec des élèves et dont je sais qu'il est quelqu'un de très accessible et de très passionné par ce qu'il fait. Et donc, il a reçu un Fauve d'or au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Donc, c'est pas rien.
C'est pas mal.
Voilà, il a travaillé avec des artistes dans le domaine musical, avec Étienne Dao, avec Brigitte Fontaine. C'est une exposition qui promet d'être riche et très intéressante.
On a eu l'occasion de parler de l'exposition qui a lieu en ce moment aux archives et qui est toujours prolongée. Là.
Oui, l'exposition aux archives sur Marmande et le chemin de fer, à toute vapeur, voilà. Et bien sûr prolongée parce que ben, malheureusement, depuis son installation, elle a connu beaucoup de périodes de fermeture. Donc on peut toujours la découvrir effectivement aux archives. Et c'est très intéressant, c'est passionnant pour découvrir... Voilà, l'histoire de la ville sous un aspect un peu transversal, un peu particulier, qui est l'accessibilité de la ville au chemin de fer et tout ce que ça a pu changer dans la physionomie de la ville, dans le tourisme, dans l'entreprise, voilà. Et donc, je vous encourage vivement à aller également, après être... aller au musée, avoir réservé une place de spectacle. Je vous encourage à aller aux archives, découvrir cette très belle exposition.
En ce moment, il y a également une exposition, je crois, au niveau de jeunes artistes.
Oui, c'est le troisième salon marmandais des artistes aquitains, dont le vernissage a eu lieu hier, en fin de journée, à la chapelle Saint-Exupéry. Donc cette exposition a lieu sur trois domaines, sur trois lieux différents, à savoir donc la chapelle Saint-Exupéry, la médiathèque et également la galerie Garozart. Voilà. Donc ces trois lieux concentrent à peu près une trentaine d'artistes qui exposent. Et l'intérêt, c'est que pendant cette semaine, à la médiathèque spécialement, il y a quelques cours qui sont donnés aux enfants, puisque l'association organisatrice est tous artistes enfants, et dont l'objectif est de travailler avec des artistes auprès des enfants. Voilà. Donc la semaine culturelle a commencé hier, elle a bien avancé, avec un très très beau vernissage, une centaine de personnes présentes à ce vernissage. Et donc je vous invite vraiment à vous déplacer sur ces trois lieux pour pouvoir assister à ce troisième salon marmandais.
Très bien, merci. Donc, on a parlé du troisième salon du Marmandais, des artistes en Aquitaine. C'est surtout des jeunes, je crois, d'après ce que j'ai compris, principalement, non ?
Non, pas du tout, pas spécialement. Il y a des jeunes et voire des moins jeunes.
Ah, oui.
Mais je crois que quand on est artiste, on est jeune toute sa vie.
Ah, toute sa vie.
Oui.
Alors, justement, toi qui es artiste de la vie de Marmande, conseiller en...
Je suis conseiller municipal à la culture et j'ai plus en charge les arts visuels.
Ah.
Donc à savoir l'APACAM, donc le cinéma.
Mmh.
Je veux dire également l'UPOP, l'université populaire. Mais bien évidemment, tout ce qui a trait à la culture. Et donc on est une équipe de 5 personnes qui nous partageons les tâches, mais qui nous voyons fréquemment pour...
Ce premier trimestre. Après, je dirais... un an et demi de plus ou moins en pointillé. Le culturel sur Marmande était en pointillé. Alors, on démarre sur les chapeaux de roue là maintenant.
Alors oui, on a décidé cette année d'entamer cette saison, toutes les structures, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. On regarde vers devant, on est heureux de retrouver les artistes, mais aussi le public. On est heureux de retrouver toutes les personnes qui peuvent participer à la création d'un spectacle, les techniciens, vraiment le public. Et la soirée de vendredi dernier a été ce moment qu'on attendait, se retrouver tous ensemble dans une salle de spectacle. Et le rendez-vous a été très attendu et a été très satisfaisant. Position.
Très bien, merci. Voilà, l'émission Parlons Terroir s'achève. Le thème, c'était, on a abordé la culture avec Célia Sanchez, qui était directrice du service culture de la communauté de communes du Réolais. Christian Dubut, de l'association culture et loisirs Sainte-Bazée, qui a présenté la foire d'automne. Et puis, la promotion culturelle de la ville de Marmande, avec à la fois Emmanuel Marchand, Jean Maire, en charge de la culture, mais surtout Luc Rabache, directeur d'affaires culturelles, Natacha Caparro, directrice de théâtre comédia, et puis Alain Lebris, conseiller municipal en charge des arts visuels. Aussi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.